Audiolib présente Le magicien de Colm Tobin, traduit de l'anglais par Anna Gibson, lu par Thierry Blanc. Pour Nan Graham. Chapitre 1. Lübeck, 1891. Sa mère attendait là-haut pendant que les domestiques débarrassaient les invités de leurs manteaux, de leurs chapeaux, de leurs écharpes. Tant que le dernier d'entre eux n'avait pas été introduit au salon, Julia Mann demeurait dans sa chambre. Thomas faisait le guet sur le palier avec son frère aîné Heinrich et leurs deux petites sœurs, Lula et Carla. Leur mère n'allait pas tarder à paraître. Heinrich devait ordonner à Carla de se taire, sinon ils allaient être envoyés au lit, et il manquerait le grand moment. Enfin, Julia faisait son apparition, cheveux tirés en arrière et retenus par un ruban de couleur. Elle portait une robe blanche. Ses souliers noirs, qu'elle faisait venir spécialement de Majorque, étaient simples, comme ceux d'une danseuse. Elle descendait l'escalier et rejoignait la compagnie avec un air réticent, comme si elle venait de passer du temps seule avec elle-même dans un endroit autrement plus intéressant que le Lübeck mondain. Ayant fait son entrée au salon, elle regardait autour d'elle et semblait ravie de découvrir soudain un invité précis, en général un homme, par exemple Herr Kellingshusen, qui n'était ni jeune ni vieux, ou Franz Cadovius, qui avait hérité du strabisme de sa mère, ou encore August Leverkühn, le juge aux lèvres minces et à la moustache en brosse. Et cet homme-là devenait, dès lors, l'objet de toutes ses attentions. La distinction de Julia tenait au mélange d'exotisme, de charme et de fragilité qui irradiait d'elle. L'éclat de son regard se nimbait toutefois de gentillesse, tandis qu'elle interrogeait son invité sur son travail, sa famille, ses projets pour l'été, et d'ailleurs, en parlant de l'été, pouvait-il la renseigner sur le confort respectif des hôtels de Travemünde? Puis, elle passait au palace de destination lointaine, Trouville, Collioure, ou encore quelques villégiatures de l'Adriatique. Bien vite, toutefois, elle lui adressait une question déconcertante. Elle lui demandait ce qu'il pensait de telle femme de leur cercle, tout à fait normale et respectable, par ailleurs, semblant sous-entendre que sa vie privée faisait l'objet de rumeurs et de spéculations en ville. La jeune Frau Stavenhitter, par exemple, ou Frau McEntoon, ou la vieille Fräulein Distelmann, ou bien une autre encore plus terne et discrète que celle-là. Lorsque son interlocuteur, pris de court, faisait valoir qu'il n'avait que du bien à dire, ou rien que de très ordinaire, en vérité, sur cette personne, elle exprimait l'opinion que, tout bien pesé, l'objet de leur échange était à son avis une femme merveilleuse, tout simplement délicieuse, et que Lübeck avait de la chance de compter parmi ses citoyens une dame de cette qualité. Elle le disait comme si cette révélation devait rester confidentielle jusqu'à nouvel ordre et n'avait même pas encore été communiquée à son sénateur de mari. Le lendemain, la ville bruissait des menées de leur mère et de la femme sur laquelle elle avait jeté son dévolu. Heinrich et Thomas ne tardaient pas à en entendre parler par leurs camarades à l'école, comme si on avait donné la veille une pièce de théâtre dernier cri venue tout droit de Hambourg. Le soir, quand le sénateur s'était absenté pour une réunion ou à l'heure d'aller au lit, quand Thomas et Heinrich étaient en pyjama après les devoirs et le dîner, leur mère leur parlait de son pays natal, le Brésil. Un pays si vaste que nul ne savait combien il comptait d'habitants ni quelle pouvait bien être la physionomie de certains d'entre eux ou la langue qu'ils parlaient. Ce pays faisait plusieurs fois la taille de l'Allemagne. Là-bas, l'hiver n'existait pas, pas plus que la neige, le givre ou un froid digne de ce nom, et il était traversé par un fleuve, l'Amazone, 10 fois plus long et 10 fois plus large que le Rhin, dont les innombrables affluents traversaient les forêts profondes où les arbres étaient plus gros que n'importe où ailleurs dans le monde et où vivaient des gens que nul n'avait jamais vus et ne verrait jamais, car ils connaissaient la forêt comme personne et savaient